HHHH. Derrière ce titre de roman qui peut à juste titre susciter l'interrogation se cache un acronyme. Himmlers Hirn heißt Heydrich, soit le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich. Une expression utilisée par les nazis eux-mêmes pour désigner le chef de la Gestapo et protecteur de Bohème-Moravie, Reinhard Heydrich, un des dirigeants nazis les plus redoutables et redoutés du Troisième Reich. C'est à sa figure, mais surtout aux deux parachutistes tchécoslovaques qui l'ont abattu en 1942, que s'est intéressé l'écrivain français Laurent Binet dans son roman paru en 2009 chez Grasset, prix Goncourt du premier roman en 2010. Tout comme Jonathan Little et ses Bienveillantes ou Yannick Enel avec Yann Karski, Laurent Binet fait partie de ces jeunes auteurs qui ont investi une époque dramatique qu'ils n'ont pas connue au moment où les derniers témoins de la Shoah disparaissent peu à peu. Pour cette raison, sans doute aussi, son ouvrage s'interroge dans le même temps sur la façon d'écrire un roman historique sans travestir la réalité. Nous vous proposons à l'occasion de ce 8 mai qui commémore la fin de la Deuxième Guerre mondiale une rediffusion de l'entretien accordé par Laurent Binet à Anna Kubishta.
Donc, je m'appelle Laurent Binet, j'ai 37 ans, je suis professeur de français et j'ai fait mon service militaire à l'époque où il existait encore en France. En Slovaquie, j'étais envoyé en Slovaquie pour donner des cours à des soldats slovaques, des élèves officiers dans une école de l'air à Košice. Et par la suite, j'ai partagé mon temps pendant plusieurs années entre Paris et Prague.
De ce séjour en Slovaquie et en République tchèque par la suite est né un roman, HHHH, c'est un petit peu dur à prononcer, je vais devoir le dire de manière un peu scindée comme ça. C'est un roman qui est paru chez Grasset, qui s'intéresse alors à un volet important pour les Tchèques et Slovaques de leur histoire, puisque c'est l'attentat contre le Reich Protector de Bohème-Moravie, Reinhard Heydrich, assassiné en 1942 par deux parachutistes, Jan Kubisch et Josef Gabčík. Alors, comme je disais, c'est en effet un événement très important à la fois pour les Tchèques et les Slovaques, mais aussi pour l'histoire du Troisième Reich, de la Deuxième Guerre mondiale, qui est peut-être moins connue d'ailleurs des Français. Comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à cette période déjà et à cet attentat en particulier?
Mon père est prof d'histoire et depuis tout petit, il a pris l'habitude de me raconter des choses sur l'histoire et notamment, il m'avait mentionné cet attentat contre Heydrich sans me donner de détails. Et quand j'étais envoyé en Slovaquie, la première chose que j'ai demandé en arrivant à l'ambassade, au secrétaire de l'attaché de défense, c'était des détails sur cet attentat. Les premiers détails qu'il m'a donnés m'avaient intrigué puisqu'il m'a dit que la mitraillette de l'un des parachutistes s'était enrayée au moment de l'attentat et puis il m'a dit que les parachutistes ensuite s'étaient réfugiés dans une église, que les Allemands avaient essayé de les noyer, de les enfumer et donc il m'a donné quelques éléments sur l'assaut au final, le siège dans la crypte de l'église Saint-Cyril et Méthode. Ça m'a intrigué et puis j'ai commencé à creuser et de fil en aiguille je me suis rendu compte que c'était une histoire absolument extraordinaire et j'ai eu envie de la raconter. Et c'est vrai aussi que c'est à mon avis le plus grand acte de résistance de toute la Deuxième Guerre mondiale et il me semble qu'il est assez peu connu en France mais aussi dans le reste de l'Europe à part en Tchéquie et en Slovaquie. C'est un événement qui est pas très très connu et donc j'avais envie de le faire connaître.
Ce qui est étonnant finalement, qu'il n'ait pas été si connu que ça puisque pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui l'auraient oublié, finalement Reinhard Heydrich était l'instigateur de la solution finale, on en parle dans les livres. Mais finalement, cet épisode est un peu passé à la trappe dans les bouquins d'histoire, tout simplement, même à l'école.
Oui, alors ça, je pense que c'est parce que justement, les fonctions de Reinhard, de Heydrich étaient très secrètes, en fait, en tant que chef des services secrets, en tant qu'organisateur de la solution finale. Il n'était pas connu à ce titre à l'époque. Il était connu comme protecteur de Bohème-Moravie. On savait qu'il avait des responsabilités dans la Gestapo. Mais donc, c'était quand même un personnage très secret. Comme il a été éliminé en 42, après la guerre, on cherchait des responsables, des coupables. C'est pas vers lui qu'on a cherché, mais plutôt vers Eichmann, notamment. Eichmann, qui était en fait l'homme à tout faire de Heydrich. Mais finalement, Eichmann, le subordonné d'Heydrich, est beaucoup plus célèbre encore aujourd'hui que Heydrich. Et ça, je pense que c'est lié au fait que Heydrich a disparu en 42.
Qu'est-ce qui vous a fasciné, justement, chez ces deux parachutistes en particulier, justement, puisque ce sont, en effet, c'est un des plus grands actes de résistance, mais dans votre roman, vous essayez aussi de reconstituer un peu leurs traits de caractère. Ils sont très différents, tous les deux. Vous essayez de retrouver un petit peu ce qu'ils ont fait quand ils étaient en Angleterre, puisqu'ils sont partis de la Tchécoslovaquie au moment de l'occupation nazie. Qu'est-ce qui vous a fasciné chez ces deux personnages en particulier ?
Oui, bah, c'était d'ailleurs très frustrant le fait que j'ai beaucoup moins d'informations sur eux que sur Heydrich, mais disons. Leur acte était un acte de courage et d'héroïsme invraisemblable, et j'avais envie d'en savoir plus sur eux. Enfin, de ce que j'en ai appris, c'était des jeunes gens très courageux, mais par ailleurs très sympathiques, très humains, très très chaleureux, et enfin qui avaient une vie qui étaient des héros d'une part, qui avaient une vie d'homme tout à fait normal, qui avait des petites amies d'autre part, et bon, je me suis évidemment, enfin, j'ai éprouvé beaucoup d'empathie pour eux, je me suis beaucoup attaché à eux, et puis en même temps je suis aujourd'hui plus vieux qu'ils n'étaient quand eux sont morts, et enfin j'ai beaucoup de, ils sont morts alors qu'ils étaient plus jeunes que je le suis aujourd'hui, mais j'éprouve beaucoup de respect, d'admiration pour ces jeunes gens, quoi, qui ont accompli cet acte de façon, avec beaucoup de simplicité, j'ai l'impression.
Et puis vous parlez évidemment aussi de toutes les personnes qui les ont aidés, hein, tout autour, finalement toutes ces personnes qui sont tombées un peu dans les oubliettes de l'histoire, les familles qui les accueillent. Comment est-ce que vous avez retracé un petit peu justement leur parcours? C'est un peu un travail d'enquête de Sherlock Holmes, enfin d'historien, hein, tout simplement aussi, je suppose, puisque certes c'est un roman, mais vous faites un travail d'historien puisque vous allez chercher dans les archives. Combien de temps, en gros, simplement concrètement, vous avez mis à rassembler tout ce matériel documentaire pour avoir de la matière à partir de laquelle écrire votre roman?
Oui, ça m'a pris des années. Je suis pas un historien et j'ai pas tout à fait un travail aussi rigoureux qu'un historien aurait pu le faire, je suppose, mais j'ai quand même rassemblé une très grosse documentation. La phase de documentation plus la phase de rédaction, ça m'a presque pris 10 ans, dont la moitié en documentation. Donc j'ai rassemblé beaucoup d'ouvrages, et notamment, enfin, je voudrais profiter de cette interview pour rendre hommage à Miroslav Ivanov, qui a écrit un document qui a été très précieux pour moi, où il avait recueilli beaucoup de témoignages, de témoins oculaires de toute cette histoire, d'un pompier par exemple, qui a été lors du siège des SS, qui a été convoqué par les SS pour noyer les parachutistes, mais aussi des témoignages de concierges des immeubles où les résistants étaient cachés, ou d'amis des résistants, ou de résistants eux-mêmes, parmi les rares résistants qui n'avaient pas été éliminés. Et donc c'est comme ça que j'ai pu découvrir le réseau de résistants, de familles tout à fait ordinaires, de braves gens qui ont aidé les parachutistes, et dont la figure emblématique est celle qu'ils appelaient la tante Moravtsova, qui était une petite dame d'une cinquantaine d'années, je crois, qui était mariée, qui avait des enfants, et qui faisait son marché dans la journée, et puis enfin le soir, qui allait porter à manger aux parachutistes dans la crypte, et qui a payé ses activités de sa vie, puisque donc elle a croqué une capsule de cyanure quand la Gestapo est venue l'arrêter.
Alors pour ce roman, vous avez choisi une forme assez originale. D'une part au niveau temporel, puisque vous avez à peu près trois niveaux de lecture temporelle. Vous avez à la fois la Deuxième Guerre mondiale, vous avez les années 90-2000, on va dire en gros, quand vous faites vos recherches, quand vous êtes en Slovaquie, etc. Et vous avez un troisième axe temporel qui est celui de l'immédiateté, c'est celui, le moment où vous écrivez. Et en fait, finalement, d'une certaine façon, le récit ou le roman que vous écrivez s'écrit sous nos yeux. Et tout au long de votre roman, vous dites vous défier justement du romanesque, puisque vous écrivez sur l'histoire. Alors déjà, simplement, pourquoi est-ce que vous vous défiez du romanesque? Sachant qu'en plus, vous êtes quand même professeur de littérature. C'est un petit paradoxe quand même.
Oui, mais parce que j'avais l'impression que si je voulais vraiment rendre hommage à ces hommes, ces femmes qui ont résisté, il fallait que j'essaie de retracer fidèlement ce qu'ils avaient fait. Et si je commençais à combler les trous en ayant recours à des scènes de fiction ou à inventer tel ou tel détail que je connaissais pas, j'avais l'impression de plus tout à fait parler d'eux, de parler de personnages, de fiction qui leur ressemblaient, mais c'était plus tout à fait eux, et donc j'avais l'impression de trahir l'histoire avec un grand H et leur histoire personnelle. Donc c'est pour ça que je voulais rendre compte de cet état d'esprit et faire comprendre au lecteur que ce que je lui ai raconté, c'était pas simplement une histoire extraordinaire avec un bon scénario, mais que c'était avant tout une histoire vraie et que les protagonistes avaient réellement existé et que ce dont je parlais, ça leur était réellement advenu. Donc ça, c'était très important pour moi, et j'ai pensé que le moyen de faire en sorte que le lecteur ne perde pas ça de vue, c'était justement d'expliquer quand j'étais confronté à des doutes, des hésitations quant à la véracité de tel ou tel épisode. Et donc, voilà, de rendre compte de ces doutes, de ces hésitations. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu recours à ce dispositif qui me permettait de me démarquer d'un roman ordinaire. Sachant qu'à l'arrivée, c'est vrai que je considère avoir utilisé des procédés romanesques pour raconter cette histoire le mieux possible, de façon à ce qu'elle soit la plus intéressante possible pour les lecteurs. Mais je considère que mon livre n'est pas un roman en ce sens où il recourt pas à ce qui est... Il n'a pas recours à ce qui, normalement, fonde la spécificité du roman, qui est l'invention, le recours à la fiction.
Pourtant, c'est quand même marqué roman sur la couverture et l'intitulé de ces romans. Pourquoi ne pas avoir choisi, par exemple, essai de roman ?
Alors oui, vous avez raison, il y a marqué roman, et ça c'est une convention éditoriale qui fait, parce que justement en France, et je crois pas simplement en France, on ne reconnaît plus que deux catégories, c'est essai et roman. Et mon ouvrage n'était pas un essai, c'est un récit, ça raconte une histoire, simplement, voilà. Donc la catégorie histoire vraie n'est pas reconnue par les bacs par les libraires et n'a pas de case dans les librairies, donc voilà.
C'était l'écrivain Laurent Binet sur Radio Prague. À noter encore que son roman HHHH est sorti en tchèque en octobre 2010.